Nicole Raymond a rencontré pour nous Valérie Bruneau. Elle est enseignante, elle est prof, en fait, au Cégep. Édouard Montpetit, prof en économie. On parle de la fermeture des Sears.
Vendredi dernier, la Cour de l'Ontario a permis, a donné l'autorisation à Sears de liquider l'ensemble de ses biens et de ses actifs, ce qui signifie la fermeture de tous les magasins au pays.
En effet, si je reprends un peu de vos propos, comme de fait, c'est l'histoire des familles Sears Canada qui a été créée en 1952. Donc, ça fait très longtemps, il y a plusieurs générations là, qui ont vécu avec le catalogue de Sears. Donc, Sears vient en fait d'un modèle original des années 50, au moment où il y avait la création des banlieues, donc création de la Rive-Sud finalement, lorsqu'il y avait des grands terrains à faible coût qui étaient disponibles. Puis surtout, on voyait le potentiel de réaliser de grands profits avec l'exploitation de centres commerciaux. Donc, par exemple, les promenades sont arrivées plus tard, les promenades Saint-Bruno en 1978, Maille Champlain en 1975. Puis à ce moment-là, il y avait deux entreprises, là, pour les nostalgiques, deux entreprises qui étaient les principaux détaillants, Sears et Steinberg. Donc, sur ce modèle-là, qui était dans le fond le symbole de la consommation nord-américaine, bien, ça a vécu plusieurs années, ça a très bien fonctionné, mais en ce moment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de fermetures de centres dans l'Amérique du Nord, finalement, des centres au complet.
Est-ce que c'est un courant qui semblait, ou on sentait venir un courant vers ceci, comme les fermetures de grandes surfaces qui offrent beaucoup de produits?
Oui, en effet, c'est une tendance là, de voir la fermeture des grands magasins. C'est que les gens, en fait, recherchent de plus en plus des entreprises qui vont avoir un positionnement. Et c'est peut-être là qu'il y a la difficulté avec Sears. Donc, aussi, les prix concurrentiels. Depuis la crise de 2008, des clients, incluant la Rive-Sud de Montréal, les clients sont beaucoup plus soucieux des prix. Puis avec des nouvelles applications, on est capable d'obtenir aussi les prix les moins chers en faisant quelques clics sur l'ensemble de nos produits puis l'ensemble des informations. Alors, les anciennes bannières ou les bannières qui n'ont pas su suivre ce nouveau mode de vie-là ou répondre aux nouvelles demandes des clients du bas prix, là, tel Walmart, Winners ou la spécialité, mais ils ont de plus en plus de difficultés, justement, à répondre à l'acheteur. L'acheteur qui est dans la trentaine aujourd'hui, dans la quarantaine, mais surtout aux milléniaux qui ont une autre façon de penser, qui n'est pas celle de leurs parents.
Il y a des gens qui vont écoper aux alentours. Bon, quelque part, le magasin va fermer peut-être dans 3 mois, je pense, une période d'une douzaine de semaines pour liquider l'ensemble des magasins.
C'est très rapide. C'est en 10 et 14 semaines qu'on veut liquider les magasins, chose assez surprenante.
Il y aura un impact sur les emplois, sur les fournisseurs. Ça aura un impact aussi sur le centre commercial. Est-ce qu'on peut estimer à quoi ça va ressembler, cet impact de fermeture, comme Target l'a été il y a quelques années?
Oui, c'est difficile d'estimer exactement par magasin parce que les données ne sont pas disponibles puisqu'elles sont privées, Sears étant une entreprise privée. Toutefois, ce qu'on peut observer au niveau de la fermeture de Sears, par exemple, du côté des fournisseurs, on sait qu'il y a 340 entreprises québécoises dans la liste des fournisseurs. Il y en a un par ailleurs qui est très important sur la rive sud de Longueuil, peut-être vous avez déjà entendu Promotion Atlantique ou peut-être Starfrit, ça vous dit quelque chose davantage?
Bien,
en fait, eux, depuis déjà quelques années, ils voient chez Sears une baisse. Ils passaient de commandes de 7-8 millions, ils étaient rendus à 500 000. Donc, les fournisseurs, pour la grande majorité, ont vu venir la baisse de demandes de la part de Sears. Donc, les mises à pied, les ajustements pour la grande majorité, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, ont été faits. Donc, elle ne s'attend pas à des mises à pied dans la majorité des fournisseurs, ni à une grande révision des budgets, parce que les assurances avaient prévu le coût. Et ça, c'est une bonne nouvelle au niveau des emplois qui pourraient être collatéraux, que je peux enseigner au niveau des fournisseurs. Du côté des employés, maintenant, des travailleurs vraiment de chez Sears, un employé sur deux travaille comme vendeur au niveau du commerce de détail.
Et souvent en temps partiel, hein?
Bien, les deux tiers sont à temps plein.
Avez-vous une idée, Mme Bruneau, l'impact que ça peut avoir sur un centre commercial?
C'est que les grandes surfaces, c'est le moteur du centre commercial. Donc, c'est le modèle de base, comme je le disais plus tôt, est fondé sur le fait qu'il va y avoir des grandes surfaces pour attirer la clientèle. Évidemment, on peut s'inquiéter de l'achalandage. Mais moi, j'aimerais quand même mettre le point qu'au-delà des grandes surfaces, il y a aussi, si on y pense, plusieurs boutiques de gamme moyenne qui ont fermé, telles que Mex, Jacob, HMV, qui étaient aussi des emplacements d'assez grande importance aux promenades Saint-Bruno et aux Mèches Champlain. Donc, ça fait beaucoup de locaux à modifier. Donc, par contre, les entreprises qui sont gestionnaires des parcs immobiliers, depuis quelques années, restructurent et prévoient déjà un petit peu ces faillites, je ne sais pas si on peut le dire de cette façon-là, en essayant de restructurer. Alors, les solutions en ce moment qui sont mises de l'avant par les différents centres commerciaux, les grands gestionnaires, c'est qu'ils ont découvert qu'il faut fournir une expérience aux clients. Donc, oui, il y a des espaces vides, mais il faudrait que ces espaces vides soient comblés pour que le client trouve soit un élément de courte durée ou une expérience vécue. Donc, par exemple, on parle d'essais de différentes technologies ou de parcs pour enfants, de parcs intérieurs pour enfants. Donc, on veut des restaurants aussi pour attirer la clientèle. Donc, on mise plus nécessairement sur le magasin rayon pour attirer les milléniaux particulièrement, mais sur plutôt une expérience qui serait mémorable et sociale. Donc, il y a beaucoup de petits carrés de libre. Puis l'objectif qu'on cherche à faire, c'est soit de diviser en locaux à court terme des locations de 24 heures, de 48 heures pour des galeries d'art, par exemple, on a vu ça récemment, ou vraiment trouver des objectifs pour réinventer, recréer l'achalandage par, justement, comme j'ai dit quelquefois déjà, là, une expérience sociale qui va attirer les gens, puis qui va être très changeante aussi.
Valérie Bruno, c'est tout le temps qu'on a. On a même excédé notre temps. Donc, je rappelle que vous êtes professeure d'économie au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en sciences de la gestion option économie. Vous avez éclairé notre lanterne. Un grand merci pour ces informations.
Mm-hmm. Ça m'a fait plaisir.
8h30, merci Henri-Paul Raymond également. On retrouve Henri-Paul dès 9h pour les nouvelles. D'ici, on s'en va, mine de rien, vers la chronique de Louis-Philippe Prévost dans les prochaines minutes.
De bonheur,